À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonjour Alain.
Bonjour Jean.
Bonjour Chantal.
Bonjour Chantal.
Et bonjour Laurent.
Et bonjour Laurent.
Bonjour Alain et Jean. Et bonjour Laurent.
Une équipe pas reconstituée, puisqu'elle a été constituée pratiquement toute l'année, donc elle continue.
Elle continue et nous reprenons pour l'année 2010.
Voilà.
2011, avec grand plaisir, avec Couleur FM
97.1.
Que tous nos, non seulement nos, les adhérents de l'INIS, mais toute une population locale écoute certainement et sur la radio et peut retrouver sur notre site Italie Noriseur, Noriseur sans accent.
Sans accent.
Sans accent sur le.
Tout en attaché.
Tout en attaché. @.
Non, point com.
Point com, oui, voilà. C'est ça. Oh, décidément, on n'a plus l'habitude. Italie Noriseur. .com sur lequel on peut consulter et les émissions générales comme celle d'aujourd'hui et nos émissions sur l'histoire de la chanson italienne avec Alain Pongan. Le prochain enregistrement étant le 15 septembre.
En général, on essaye de mettre les trois dernières émissions de chacune des deux dont on vient parler. Voilà.
Voilà. Alors, c'est la rentrée. On est tous revenus de vacances, bronzés ou pas, en forme en général.
Alors, est-ce que le bronzage est un signe de forme? Grande question.
Ah là là, c'est un signe de mode surtout,
oui.
plus que de forme.
Voilà.
Et puis, on prépare la rentrée en ce qui concerne l'INIS. Donc, nous avons participé au Forum des associations le 11 septembre dernier. C'est toujours extrêmement intéressant. Et puis, nous préparons notre Assemblée générale annuelle pour le vendredi 24 septembre avec, à la salle Grenette, à l'espace Grenette de Bourgoin-Jallieu, 24 septembre, espace Grenette, avec à 18h une rencontre des candidats au cours. On a déjà presque une cinquantaine de préinscrits pour les cours de l'année prochaine. Et on aura certainement un groupe de débutants. Donc on va démarrer comme d'habitude et pas sans problème parce que les enseignants n'abondent pas. On va démarrer six groupes, d'un groupe de débutants à un groupe qui va travailler en particulier cette année sur Milan, sur une histoire de Milan en italien, parce que le groupe doit préparer, peut-être pour l'automne, un voyage de 3 jours à Milan. Un séjour à Milan qui est demandé à l'association depuis longtemps. Et donc, à 18h, le 24 septembre, on aura cette rencontre des candidats au cours. Et puis à 19h, l'Assemblée générale proprement dite, qui va discuter, qui va décider des activités de l'année, les voyages, les rencontres, les cours, la radio, bien sûr, on va parler de Couleur FM, et puis les travaux qu'on va entreprendre sur l'immigration italienne dans le Nord-Isère, qui a déjà commencé l'année dernière, mais qui va donner l'essentiel cette année. Et puis, l'ensemble des activités, la chorale, bien sûr. Chantal, la chorale, c'est...
Alors, la chorale, nous redémarrons le lundi 13 septembre. Et nous faisons une journée entière, de 9h à 17h, avec une pause casse-croûte que chacun apportera. Et donc, ça se passe à notre salle, 75 rue de la Libération.
Voilà, la mairie a pu nous libérer un local régulièrement au 75 rue de la Libération. Et c'est bien, on a même un petit espoir d'avoir un local de l'INIS où on pourrait même déposer nos archives. Qui sait, on va en reparler.
Chantal, les candidats à cette chorale peuvent toujours nous faire signe ou nous téléphoner.
Oui, bien sûr, nous avons des concerts très proches, donc ceux qui arriveront maintenant
s'intégreront petit à petit.
Mais de toute manière, oui, tout le monde peut venir tout de suite. Et puis, bien sûr, que nous accueillons tous les gens qui ont envie de chanter en italien, qui aiment chanter. Et tout le monde sera accueilli avec grand plaisir et grande joie, et surtout les voix d'hommes.
Surtout les voix d'hommes, il manque des hommes.
Oui, il manque des voix d'hommes, ça c'est certain. Ouais.
La femme est l'avenir de l'homme, mais il ne faut pas que l'homme disparaisse.
La preuve, n'est-ce pas, c'est que ça pose des problèmes après au niveau des chorales.
Voilà, les basses et les barytons, les ténors surabondent pas.
Ouais.
Et cette année, la chorale a quelques rapports avec le travail sur l'immigration.
Oui, puisque nous avons un répertoire de chansons qui concernent l'immigration italienne. Des très belles chansons, d'ailleurs. Et puis, nous avons des concerts prévus un pour l'Assemblée Générale, un petit concert le 9 octobre, un concert le 13 novembre à l'ouverture de la Journée de la Solidarité à l'Espace Grenette. Et puis, plus lointain, pour 2011, peut-être une participation à un événement du comité de jumelage de Bourgoin.
Oui,
voilà.
Qui fête son 15e anniversaire des rapports de la convention avec la ville italienne de Conselice.
Voilà.
Conselice. Conselice, que les Bergusiens ne savent pas toujours bien accentuer. Voilà, donc, pour le 24 septembre, et puis après l'Assemblée Générale, comme d'habitude, on se retrouve ensemble et on passe la soirée ensemble.
À discuter, en grignotant
ce que chacun apporte.
Lancer des idées.
Refaisons le monde, tout au moins celui de l'INIS.
C'est comme ça qu'est née la chorale.
À défaut de pouvoir refaire l'autre.
Voilà.
En tout cas, nous tout seuls.
L'Assemblée Générale, c'est comme ça qu'est née la chorale.
Voilà.
Absolument.
Et puis, l'INIS a pris cette année une initiative dont on va voir ce qu'elle donne. C'est une initiative d'édition. On va publier, ça sera à peu près la semaine prochaine, une brève histoire du Piémont et une petite histoire du Piémont et une brève histoire de Milan qui font chacune 60 pages avec la couverture et qui essayeront de donner quelques informations parce qu'on s'aperçoit que les Français savent peu de choses de l'histoire d'Italie. Et puis, il y en a une troisième qui est en préparation sur l'histoire de l'unification italienne. Alors, pas seulement l'histoire des guerres d'indépendance de 1859-60 qui vont donner naissance à l'État italien indépendant et unifié, mais un peu quel est l'arrière-plan historique de cette unité, de cette indépendance. En quoi consiste l'unité ? Est-ce qu'il s'agit seulement d'une unité diplomatique et politique ? Il y a un problème plus profond d'unité sociale entre l'ancienne aristocratie, la bourgeoisie du 19e qui va faire l'unité, effectivement, politique. Elle en a besoin parce qu'elle a besoin d'un marché uni pour ses produits nouveaux. Et puis, un peuple en particulier paysan qui va rester complètement en dehors de l'unité, qui dans le sud en particulier donnera naissance à un brigandage d'opposition au nouvel État parce que ce peuple ne se retrouve pas dans cette unité, dans cette nouvelle nation et ce nouvel État. Et c'est intéressant parce que sans réfléchir là-dessus, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui en Italie.
Voire en Europe.
Et voilà. Mmh. Et puis, l'hypothèse a été faite par Gramsci en particulier, Et il la faisait au début des années 30, que l'histoire de l'unité italienne était intéressante à traiter en fonction d'une unité européenne, disait-il, début des années 30, qui est en train de se préparer. Et c'est intéressant, effectivement, de voir comment les difficultés d'unifier tous ces petits États italiens qui existent jusqu'en 1861, qui ont des langues différentes, qui ont une langue commune, mais peu pratiquée, et qui ont des dialectes différents, mais qui sont des langues différentes. Point commun avec l'Europe et ses langues différentes. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'en est un parmi beaucoup. Donc voilà, on a cette initiative de l'INIS cette année d'édition de brochures qu'on a décidé de faire imprimer parce que ça coûte moins cher et c'est plus joli.
Oui, c'est intéressant de suivre ce que va organiser l'Italie pour mettre en exergue cet anniversaire, pour voir s'ils veulent vraiment renforcer cette unité. C'est intéressant de voir ce qui va se passer.
Oui, mais c'est une unité. Ouais. Oui, puisqu'on fête le 150e.
Parce que je pense que pour eux, c'est une occasion, justement, s'ils veulent la consolider, de mettre en place des événements qui vont fédérer les différentes régions.
Bien sûr. Alors, c'est le projet de l'État, défendu par le président de la République, vigoureusement attaqué par ceux qui mettent en cause l'unité, comme les autonomistes de la Ligue du Nord, qui voudraient bien créer trois États en Italie, le Nord, la Padanie, l'Étrurie au centre, et puis le Sud, on ne sait pas trop comment ils l'appelleraient, parce que le Sud, pour eux, ça n'existe pas, enfin, c'est sans intérêt. Et ils voudraient surtout réserver à la Padanie les richesses d'une région comme la Lombardie, même aussi un peu la Vénétie ou le Piémont, qui sont évidemment les plus riches d'Italie, alors que le Sud est pauvre et qu'il y a actuellement une répartition des ressources de toutes les régions. Et faut-il donner de l'argent à ces cutéreux du Sud qui sont fainéants, improductifs, idiots, violeurs, etc. Ce qui est à peu près la pensée très raciste et xénophobe d'un militant de la Ligue du Nord par rapport aux gens du Sud, ou bien par rapport aux Roms. Par exemple, puis c'est un problème d'actualité en France.
Ils ont fait des disciples depuis.
Ah oui. Ils ont fait des disciples depuis. Mais lorsque M. Sarkozy a fait une déclaration incompréhensible sur les Roms comme ces sauvages, la nomade, comme responsable des problèmes de la France, c'est d'un ridicule. C'est monumental, parce que si c'était les seuls responsables, ça serait facile à régler, finalement. Il doit y avoir 15 000 personnes en cause, à peu près. C'est pas vraiment un gros problème. Mais après ce discours de Sarkozy, Maroni, qui est le ministre de l'Intérieur, membre de la Ligue du Nord, a dit « Ouh, mais effectivement, Sarkozy a raison, on va faire encore mieux en Italie en chassant les Roms. »
Oui, avec qui sont à peu près chiffrés à autour de 150 000 en Italie, je crois.
Oui.
Et plus de la moitié ont déjà, de toute façon, la nationalité italienne.
Bien sûr.
Ce qui veut dire que c'est encore une fois des...
Ils peuvent,
C'est,
comme la majorité des Roms français ont la nationalité française.
C'est encore masquer une incapacité pour stigmatiser quelqu'un, pour faire oublier qu'on ne fait que parler, quoi.
Puis voilà, c'est tout. Oui.
Bien sûr, mais voilà aussi un problème d'unité. Qu'est-ce qu'on fait dans une nation unie de peuples qui ont... Ils sont en France depuis 1427 ou 37, je ne sais plus. Et en Italie, ils sont là aussi depuis très longtemps, qui ont été décimés par les nazis pour des raisons malheureusement identiques à celles qu'on entend. Mais qui sont un peuple qui a ses traditions, qui a son existence et qui a sa nationalité comme les autres, malgré ses différences. Alors voilà, on va essayer de sortir cette brochure sur l'histoire de l'unité italienne en fonction du 150e anniversaire qui sera donc en 2011. Qu'est-ce qu'on écoute, Alain, suite à ce...
Ouais, puisque tu parles des Roms, moi, je proposais, pour une fois, on ne va pas écouter un titre en italien, mais en roumain, d'un chanteur rom qui s'appelle Nicolae Guzza. D'ailleurs, on peut dire marrant, si le terme, on peut l'exprimer ainsi. L'album avait été... Il est récent, mais c'est une réédition d'une maison française Inaccord, avec un enregistrement qui, lui, est d'un italien, puisqu'il s'appelle Silvio Soave, qui réédite donc plusieurs titres de Nicolae Guzza, qu'on considère comme l'un des grands chanteurs roms. Alors, Nicolae Guzza, c'est quelqu'un qui n'est pas très âgé, hein, il est né en 67. En fait, il travaillait pour les chemins de fer roumains. Et comme il arrive malheureusement souvent en Roumanie, parce que là aussi, il faut le dire, tous les roms des chemins de fer roumains ont été licenciés, lui parmi d'autres. Donc il a commencé à se dire « il faut que je fasse quelque chose autour de ça ». Et comme il avait quelques talents de chanteur et de musicien, il s'est lancé dans la musique, notamment dans le chant de manele. Alors les manele, c'est un type de chant où les musiciens, les chanteurs qui s'expriment dans ce style de chanson passent dans des restaurants, dans des bars précis. Ils sont rattachés. Alors lui, c'était à Timișoara. Et les thèmes sont toujours un peu les mêmes. Il dénonce l'argent facile, il parle des femmes, du business ou de la mafia roumaine et de l'amour. Voilà. Alors, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit clin d'œil aux situations européennes, on va dire, sur les Roms actuellement, et particulièrement marquées en France et en Italie. Et donc, voilà pourquoi je vous propose Nicolae Guzza dans une chanson qui a pour titre « Dei ishti che multa te iubesc » qui veut dire « Si tu savais combien je t'aime ». Ça ne fait pas de mal dans ce monde de brut.
Ce multe iubesc și ce mult mă chinuiere într-o zi poate-i muri cine te va la mai iubi cine te va la mai iubi într-o zi poate-i muri cine te va la mai iubi cine te va la mai iubi. Cine o să te înțeleagă lacrimile ca să-ți creadă lacrimile ca să-ți creadă. No, no.
Voilà. Nicolas Goutsa, dans une rumba, on va dire.
Une rumba, c'est une belle musique. Ouais. Et oui, la musique fait partie de ce patrimoine populaire qui a souvent été oublié à beaucoup de niveaux dans les phénomènes d'unification nationale. Il y a des formes de patrie différentes. Dans la même nation et dans le même État. Alors Alain, tu as passé une partie de tes vacances dans les Dolomites. C'est peut-être intéressant qu'on évoque la situation actuelle de l'Italie à travers...
Une région.
Mm-hmm. Ce que tu as perçu de tout ça. Et c'est aussi un aspect de l'unité italienne. C'est que la spécificité des régions y est constitutionnellement reconnu.
Oui, alors les Dolomites, dans l'arc alpin, c'est une partie importante. Et la région dans laquelle j'étais était une des Dolomites. C'est la partie Dolomite bellunese, autour de la ville de Belluno, donc, qui est, pour vous la situer, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est au nord, qui fait partie de la Vénétie comme région, qui est au nord donc, de Venise, et dont les villes principales sont Cortina d'Ampezzo, Belluno, Feltre, en particulier, et puis aussi Agordo. Voilà donc les villes principales de cette région qui est limitrophe du Trentin et de l'Haute-Adige. Alors c'est une région montagneuse, évidemment, puisque qui dit Dolomite dit montagne, qui vient d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO.
Ah oui.
Qui est connu ici au travers notamment de Agordo, puisque Agordo est jumelé à la ville de Dolomieu. Il y a une autre commune de la région lyonnaise aussi qui est jumelée à une commune des Dolomites Bellunesi, et qui a pour point culminant la Marmolada, qui culmine à plus de 3400 mètres, mais ce n'est pas le seul mont important, puisqu'il y a d'autres montagnes qui culminent à plus de 2500 mètres dans cette région. Alors, c'est une région, on parlait tout à l'heure de région riche, c'est une région qui reste riche, alors que c'était une région pendant des années, notamment dans les années 20, des régions pauvres, en fait.
Ce qui est des migrations,
on en parlera peut-être. Et c'est une région qui est encore finalement relativement industrialisée, puisqu'il y a encore 41% de l'activité qui est faite par les industries, ce qui devient quand même plutôt rare en Europe, dont ici la grosse usine de lunettes de Agordo Luxottica, qui a plusieurs filiales à l'étranger, mais qui conserve encore beaucoup d'emplois locaux, pour l'instant, il faut toujours rajouter pour l'instant, à notre époque, qui vit aussi du tourisme, évidemment, et qui a une agriculture, notamment une agriculture biologique très développée. C'est une région très intéressante, avec des sites remarquables, comme les Tre Cime di Lavaredo, comme enfin, des montagnes qui sont magnifiques, des circuits pédestres ou à vélo qui sont splendides. Il y a...
À vélo, ça doit être sportif.
Des centaines de lacs, oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de monts. D'ailleurs, beaucoup de ces monts font partie des étapes principales du Tour d'Italie, hein, en montagne.
Oui.
Et il y a beaucoup de sentiers aménagés, beaucoup de lacs, comme le lac Misurina et Alleghe, qui sont parmi les plus beaux. Qu'est-ce que je pourrais dire encore de cette région ? Il y a beaucoup de jardins botaniques en pleine montagne. C'est-à-dire au bout de 4-5 km de santé pédestre, on a un jardin botanique
avec
en pleine nature.
Avec des petites étiquettes,
oui, magnifique,
des plantes.
Vraiment, vraiment magnifique.
C'est intéressant, ça.
Et puis, qui a beaucoup développé aussi l'ethnographie. Il y a beaucoup de musées de tradition populaire. Voilà, enfin une région bien intéressante. Alors, on peut la voir sous différents angles, puisqu'on parlait de politique. On a eu l'occasion pendant ces vacances d'échanger avec les gens du coin, que ce soit des gens à titre privé ou des associations. Le cri des associations, ceux qui en ont un peu marre de ces politiques, comme ils disent, où les décisions sont toujours à la merci d'un favoritisme ou autre, ou alors sont plus ou moins lentes, ce qui les empêche de fonctionner comme ils voudraient. On se plaint aussi, comme on est en train de se plaindre un peu en France, des coupes sur la culture, des coupes sombres sur la culture. Sinon, les débats politiques, quand les gens s'expriment, on parle évidemment de ce cher Silvio. Déjà pour insister sur le fait que visiblement le divorce là avec Finn a l'air quand même très avancé.
Oui, c'est-à-dire avec les anciens du parti néo-fasciste
qui avait rejoint
le PDL et qu'il quitte.
Mais Finn n'est, j'allais dire, plus considéré comme un ancien néo-fasciste.
Non, c'est vrai.
Il est plutôt considéré dans la population, même ceux qui ne le partagent pas du tout, ses idées actuelles, plutôt comme quelqu'un qui a une stature d'État bien autre que celle de Berlusconi.
C'est un homme d'État. Voilà. Ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas un entrepreneur, voilà, pour qui l'Italie est une entreprise qui doit être bénéficiaire et lui rapporter.
Sinon, la région elle-même. Alors, la région Vénétie, dont fait partie ces Dolomites Bellunesi, est depuis quelques mois dirigée par Luca Zaia, qui a le même nom qu'une charmante jeune fille qui a suscité la passion de beaucoup de joueurs de foot français, mais qui n'a pas aucun lien de parenté, et qui, lui, est un élu de la Ligue du Nord. Mmh. Alors, qui dit Ligue du Nord à la tête d'une région peut poser effectivement certains problèmes. Alors, la Vénétie, elle comprend cette partie des Dolomites. Alors, Luca Zaia est né à Conegliano, c'est-à-dire qu'il est plutôt proche de Trévise. Mm. Et il représente ce que lui reprochent notamment les gens des Dolomites Bellunesi, hormis son appartenance à la Ligue du Nord. Il a été élu, hein, ça c'est indéniable. Mais c'est qu'il défend plutôt les intérêts de la région de Trévise et que, par exemple, dans le conseil régional, il y a très peu de représentants de la province de Bellune. Mmh. Très, très peu. Alors, ils disent, en fait, la région de Trévise qui nous exploite parce qu'on a de l'eau dans les montagnes, évidemment, et toute cette eau a bénéficié aux Trévisans qui, eux, en manquaient. Enfin bon, c'est pas évidemment à la population, mais aux dirigeants qu'ils font allusion, puisque Trévise a longtemps eu, maintenant il est plus maire, mais un illustre fou, on peut dire. Hein.
Ah oui.
Et ils ont une aversion, la plupart des gens avec qui on discutait, pour cet homme. Par contre, Venise est un peu mis à part. Venise, qui est lui un maire qui est du Parti démocratique, enfin de la gauche italienne. Alors tout ça fait un mélange avec un président de région qui est de la Ligue du Nord, Bellune, par exemple, qui est dirigé par un membre de Forza Italia, et puis Venise, qui lui est un élu de gauche. Alors il y a quelques petites villes qui essayent dans ce méli-mélo, de faire des choses relativement intéressantes, comme à Agordo, puisqu'on parlait d'Agordo. Personnellement, je trouve que c'est une mairie qui est vraiment très bien, qui fait des choses remarquables. Quand on va dans la mairie, il y a un guichet, on parlait d'immigration, un guichet sur l'immigration, avec de la documentation traduite dans toutes les langues des habitants de Agordo. Et il y a peut-être 10 langues qui circulent dans la ville, en fait, puisqu'il y a des ressortissants de beaucoup de pays. Même à Bellune, il y a une fête chaque année, la Festa dei Popoli, où tous les habitants d'origine étrangère sont invités à venir chanter, présenter leur plat, faire connaître mieux leur culture.
Et leurs chansons, peut-être.
Et leurs chansons.
On pourrait en écouter une.
Alors, on va en écouter une, si j'ose dire, à l'envers, c'est-à-dire, puisque c'est une région qui est venue d'immigration, mais ça a longtemps été une région d'émigration. Alors l'immigration, elle était en Europe et aux États-Unis. On va écouter « Vuoi tu venire in America ?» Est-ce que tu veux venir avec moi en Amérique ?» par un groupe de Ponte nelle Alpi, là aussi une municipalité intéressante, le Cor Monte d'Olada.
Vuoi tu venire, Giulietta?
Donc ce coro était de Ponte nelle Alpi. Ils viennent de faire un album sur justement des chants d'immigration. C'est un peu les équivalents de FI, mais là, pour nous.
Oui, c'est un cœur d'homme.
Mais là, c'est un cœur exclusivement d'homme.
Il y a beaucoup de cœurs d'hommes en Italie.
Surtout en montagne.
Oui, il faudra aller chercher des hommes en Italie. Alors.
Surtout en montagne. On pourrait y organiser une rencontre entre vous. Ça serait
bien sûr.
Alors, je disais que c'était là, on avait un champ d'immigration parce qu'ils ont immigré aux États-Unis, en Europe. Et en Europe, ils immigraient, ils continuent d'ailleurs, en saisonnier cette fois, non plus en immigration définitive. Les gens, notamment de Forno di Zoldo, qui est à l'intérieur de Melunes, qui sont des remarquables maîtres glaciers. Et ils ont beaucoup immigré en Allemagne. Beaucoup de glaciers allemands, en fait, sont des gens de cette région. Et certains font encore l'aller-retour comme saisonnier en Allemagne.
D'ailleurs, à Zurich, il y a beaucoup de glaciers italiens.
Aussi, et notamment des Dolomites. Ouais. Et des Dolomites bellunesi. Mmh. L'autre type d'immigration était les chaisiers, les fameux chaisiers, notamment de Rivamonte et de Gosaldo. Il y a d'ailleurs sur la place de Gosaldo un monument à l'honneur de ces chaisiers immigrants.
Chaisiers.
Voilà. Tu avais une question ?
Je voulais te poser une question. Je voulais te demander si tu avais pratiqué une
activité sportive dans les Dolomites.
Une via ferrata des Dolomites.
Non, moi, dans les Dolomites, j'ai pratiqué le vélo par le passé, la marche à pied, et encore cette fois. Mais non, pas la via ferrata.
Pourquoi tu poses cette question, Chantal ?
Alors voilà, tu devines bien pourquoi je te pose cette question.
Je ne sais pas, on va voir. J'ai quelques idées, mais je préfère que tu l'exprimes.
Oui, donc la via ferrata, en fait, a pris naissance... c'est la tradition, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais normalement, on attribue aux Dolomites la naissance de la via ferrata.
Voilà.
Alors la via ferrata, petite info technique. La via ferrata est un itinéraire d'escalade équipé et sécurisé à l'aide de câbles, d'échelles, de barreaux, de passerelles, permettant de franchir une paroi rocheuse abrupte. Sécurisé ne veut pas dire exempt de danger. Hein. Voilà. Non. Alors, en fait, les vie ferrate, n'est-ce pas ?
C'est ça, c'est ça.
Les vie ferrate ont vu le jour pendant la... les premiers cheminements aériens ont été faits par les militaires italiens et autrichiens pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, pour permettre des accès plus rapides, plus sécurisés. Ça jalonnait la frontière italo-autrichienne. Voilà. C'était des voies d'accès stratégiques. Hein. Ce n'était pas du tout touristique. C'était stratégique, c'était pour permettre l'accès. Mais la réalité historique est un petit peu plus complexe. Parce que si l'on met de côté l'installation d'échelles posées par le capitaine Antoine de Ville et ses compagnons sur le Mont Aiguille en 1492, l'origine est en 1492, les premières échelles posées sur le Mont Aiguille. Donc l'origine des vie ferrate remonte à la seconde moitié du 19e en Autriche, où toujours pour sécuriser certaines voies, on creuse des marches, on pose des barreaux, on laisse des cordes ou des câbles fixés. En 1903, première via ferrata à vocation historique dans les Dolomites. Un accès à la Punta di Peña, à la Marmolade. On équipe l'arête ouest pour permettre aux gens qui font donc de l'escalade, de l'alpinisme, de passer par l'arête ouest, qui est plus difficile que l'autre arête. Je ne sais plus si c'est la nord ou la sud. Enfin bref. Et puis ensuite, il faut attendre en Italie, en 1966, pour un nouvel itinéraire à la Civetta.
Qui est aussi dans cette région.
C'est
un des monts qui domine.
Et qui est touristique, là.
Oui, c'est les premières. Voilà. C'est en 1966, c'est le début vraiment. C'est la deuxième génération des vie ferrate. Mais c'est un petit peu plus ancien. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu plus ancien que la guerre 14-18.
Ouais, ouais.
La première Via Ferrata à vocation historique, c'est 1903 à la Marmolade. Voilà. Ouais. Hein. Et puis ensuite, tout ce patrimoine militaire là, de la guerre de 14-18 a été valorisé par les clubs alpins autrichiens, mais surtout italiens. Voilà. C'est pour ça que c'est très lié aux Dolomites, la Via Ferrata. Alors en France, par contre, il faut attendre les années 1988 pour la première Via Ferrata à vocation historique, parce qu'il y avait un certain purisme dans le club alpin français et que les alpinistes considéraient que c'était mettre à la portée de tout le monde.
Des lieux qui devaient être
réservés. Voilà, c'est ça. Oui, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Je tiens ça de quelqu'un du club alpin français qui m'a dit qu'en fait, on avait mis longtemps. Mais depuis, on a rattrapé notre retard. Et il y a une espèce de course en avant à l'équipement qui fait qu'il y a des Via Ferrata qui sont plus ou moins intéressantes, qui sont... C'est en fait des cheminements en travers, c'est pas des cheminements qui montent. Or, c'est beaucoup plus intéressant de monter à un sommet, de faire des Via Ferrata, des Via Ferrata alpines, que des petites promenades comme ça. Mais il y a aussi un aspect touristique qui permet, par exemple, de mettre en valeur une rivière, une cascade.
Oui, en passant devant.
Voilà, il y a une petite Via Ferrata qui est là et qui permet de... Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire.
Si tu retournes dans les Dolomites, il faut faire une
vie. Oui, je ne sais pas si j'en ai les capacités, mais on en voit effectivement. Mais le fait d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO pourrait... Les Dolomites sont très préservées, franchement, au niveau des
villages.
Oui,
parce que c'est pas courant. Je ne pense pas qu'en France, il y ait un massif.
Mais le fait d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO va sans doute en plus complètement dissuader toute erreur, on va dire, dans l'exploitation de tout ce tourisme et de conserver ces traditions et sans abîmer quoi que ce soit.
Qu'il n'y ait pas des constructions sauvages de stations avec des réserves d'eau en altitude pour alimenter les canons à neige.
Comme on connaît dans certaines régions françaises des Alpes.
Oui.
Alors quand on arrive notamment aux trois cimes de la vallée, c'est vraiment un site splendide. On arrive par une route qui est à péage. Alors bien sûr, ça peut dissuader certaines personnes de dire pourquoi un péage, mais ce péage permet tout simplement
de ralentir l'arrivée des masses.
On arrive
là.
Et après on se balade dans cette montagne.
Oui, mais on commence en France aussi à le faire, parce que maintenant, ne serait-ce que pour aller au cirque de Saint-Mesmes, ils ont fait une barrière. Avant, on était arrêté par le parking, mais maintenant, ils ont fait une...
Avant le parking.
Bien avant, tout de suite, presque après Saint-Pierre-d'Entremont, il y a une barrière. Et là, s'il y a trop de gens qui sont passés, si les parkings sont pleins là-bas, ils ne laissent pas passer les gens.
Non, mais c'est une gestion qui paraît... intelligente, finalement.
Oui, parce que le tourisme, quelquefois...
Saccage.
Oui.
Voilà, alors on disait... Moi, tu as d'autres questions, ou Jean sur cette région, pour en parler longtemps. Juste une petite parenthèse, on reparlait notamment de l'emploi dans ces régions qui est encore, il y a un pourcentage de chômage qui est assez bas, finalement. Or, c'était, encore une fois, une région pauvre, il y a environ 80 ans. Un journaliste de La République disait quelque chose de très juste, c'est que la Ligue du Nord, notamment, qui est présidente de région, ou dans les discours des dirigeants de la Ligue du Nord, qui se montrent effectivement avec des propos qui sont particulièrement durs et inaudibles vis-à-vis de soit de l'Italie du Sud, soit des étrangers, finalement, c'est du discours, et puis après, dans les actes, comme ils ont besoin de main-d'œuvre dans la région, en fait.
Ils font venir des
immigrés. Oui. C'est-à-dire que c'est pas cohérent du tout avec leurs
actions. Et on est... c'était un peu l'article de Lazare dans Le Monde qui a été traduit dans La République aussi. Dans cette époque de communication et de communicants chez les chefs d'État ou chez les chefs de gouvernement, où on parle beaucoup, où on dit beaucoup de choses, on promet énormément de choses, et notamment on insiste beaucoup et on s'assoit sur la sécurité pour essayer, de, encore une fois, de masquer d'autres faiblesses. Mais les fêtes sont là. Quoi. Les fêtes restent les fêtes.
Hein. Il y a un fossé entre l'image qui est créée par les discours et puis la réalité. La première décision, tu parlais de Zaï, quand il a été élu il y a pas très longtemps président du conseil régional, il a dit « la première chose que je ferai, c'est d'interdire la pilule du lendemain
oui, ».
Bon, ce qui est, disons, pas une chose évidente. Et puis, c'est illégal. Il ne peut pas le faire parce que la pilule le lendemain a été légalisée par l'État italien.
Ça va changer tout l'avenir de l'Italie.
C'est simplement une image. Pour ce...
Enfin, ils ont tous des conseillers en communication.
Essayer de se réconcilier.
Qui sont plus ou moins bons.
L'électorat catholique de droite, quoi. Mais c'est tout.
Je pense qu'à force de se conduire comme cela, de faire des déclarations comme celle-ci, ils perdent toute crédibilité parce que les gens ne sont quand même pas des imbéciles.
Le problème, c'est les Italiens avec qui effectivement on a pu l'évoquer, et puis, mais c'est un peu vrai en France aussi, on a quand même l'impression qu'il y a aussi une démission, une lassitude.
Cette lassitude
peut se traduire par de la démission aussi. Hein,
la perte de la confiance, la perte des espoirs, des idéaux.
Les plaisanteries de Berlusconi ont amusé les Italiens
un certain temps,
et les amusent toujours, en particulier ces plaisanteries sexuelles sur sa virilité. une des récentes, c'est il raconte qu'il logeait dans un hôtel et qu'il a proposé à la femme de chambre d'aller faire un petit tour d'amour dans le lit de la chambre. Et elle lui a dit... « Mais, président, on a déjà fait ça il y a une heure. » Bon, et il ajoute, vous voyez, les privilèges de l'âge. Et bon, ça fait rire les Italiens.
Oui, mais il le sait.
Quand il promet quelque chose, depuis son élection, il promet des quantités de choses. Je ne sais pas, par exemple, la reconstruction de l'Aquila, des quartiers détruits par le tremblement de terre de l'Aquila, de mai à septembre. Et puis que les gens, que c'est toujours pas fait.
Alors, la technique est encore plus pernicieuse. C'est-à-dire que, et malheureusement, on est obligé de dire qu'on a une copie conforme ici. La technique est d'annoncer des trucs, de faire quelque chose très rapidement qui peut se faire croire que... Et c'est ce qu'il a fait, Berlusconi, à l'Aquila. Il a tout de suite fait consommer, mais vraiment tout de suite, mais quelques-uns seulement, pour dire, ben voilà, puis il est arrivé en paradant et tout. Et après, terminé, il n'y a plus rien.
D'ailleurs, il n'y va plus maintenant.
Et maintenant, il n'y va plus. Et ils sont dans cette immédiateté pour faire illusion, en fait, quoi, tout simplement.
On écoute
un autre groupe, alors là aussi des Dolomites, mais du côté Trentin. C'est un groupe qui fait renaître beaucoup de traditions populaires, qui est toujours lié à l'histoire de la région aussi. C'est Abies Alba. Et là, on va entendre un morceau qui fait référence à une fête qui, depuis une quinzaine d'années, renaît à Trento, qui est la fête du patron de la ville, en fait. Cette fête a lieu l'été, le 26 juin. Donc cette fête, elle est de nouveau, elle se traduit par différentes manifestations et qui évoque l'histoire de la ville de Trento, alors soit des traditions médiévales, soit la Renaissance, soit toute l'époque du Concile de Trente, évidemment. Et la chanson a en fait une poésie en dialecte du Trentin, puisque là aussi l'unité, c'est des régions différentes avec des langues différentes. Et c'est un poète qui s'appelle, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Carlo Nani. Et donc cette poésie raconte cette histoire, cette merveilleuse atmosphère de réunion de gens autour de leur région et de tradition, en fait. Et la musique est de Mauro Odorizzi, qui a fondé le groupe donc, du Trentin, Abies Alba. Thank you.
vigili, o strega, vardemo quanta gente. E mezzo da quei sgrebeni, se ne versa trent. Guardè quanti casotti, che ghen piazzate fera, che Babilonia magica, non mi pare neanche vera. Giostro, caneti, zinzole, serpenti, indromenzali, scimmie, cavai, biserdole, eppure si maestrati. Giostro, caneti, zinzole, serpenti, indromenzali, scimmie, cavai, biserdole, eppure si maestrati. Avanti, favorischino, sta mal chi tardi arriva, vedranno l'uomo femmina che magna un'oca viva. E dentro che è un decrepito, l'infante che è il leone, e sulla porta un porco che suona il tamburon. E intorno donne e uomini su dritti come pali, che arfie che sputona, che schizza i pubecali. E intorno donne e uomini su dritti come pali, che arfie che sputona, che schizza i pubecali. Banda civica suonando il numero 9, e brio un'onda del popolo che suda e si commuove. Dopo di sgar la tombola e poi la sera i fuochi, che razza di spettacolo, che batti voi che zoghi, bombe bengai girandole, racchette che banziel, e infin con la gran macchina la pazzigar che bel. Bombe bengai girandole, racchette che banziel, e fin con la gran macchina, la Fazigar che bel! Spara i mortai e l'ultima, la sentia se sparpaia, con le osterie o all'opera, oppure sulla paia. Ma batte poi le dodese, l'ora delle fade, e non si vede l'anima passar per le contrade, o appena qualche bargio che torna secondo zanni, con le scarse le voide e con la tronda a man. O appena qualche bargio che torna secondo zan, con le scarse le voide e con la tronda a man.
Voilà. Et puis, une autre chose, on a parlé tout à l'heure d'immigration. C'est une des initiatives de l'INIS que d'organiser cette année une grande enquête sur l'immigration italienne dans le Nord-Isère, qui est très importante. Et il n'y a pas eu d'études systématiques. Donc, on va essayer de travailler là-dessus, de recueillir des témoignages d'immigrés. Et puis, le 9 octobre, à l'espace Grenette, on organise donc un spectacle qui sera donné par une comédienne qui est elle-même une immigrée sicilienne, Venera Battiato. Et puis, autour du spectacle, on discutera de ce problème. Tu nous dis deux mots de Venera Battiato, Chantal ?
Que puis-je en dire ?
Outre que c'est une immigrée.
Eh bien, en fait, bon, moi, je la connais parce que je travaille un petit peu avec elle, mais son spectacle, je ne le connais pas. Donc, elle, je sais qu'elle elle a des talents de conteuse, de chanteuse. Elle est très spontanée, très, très enjouée et elle entraîne avec elle le public tout de suite, c'est irrésistible.
Avec son musicien.
Avec son musicien, Marc Séchaud, qui l'accompagne toujours, qui est son compagnon. Et Voilà, c'est tout ce que
je peux spectacle, dire. Le spectacle est en français.
Oui.
Oui, le spectacle est en français.
Même si les parties chantées, quand elles chantent, sont en italien, voire en sicilien.
Voilà, il dure à peu près une heure.
Et les migrations dont elle parle, ou l'immigration en vue de la France, c'est celle de ses parents avec elle en Lorraine.
Voilà, c'est ça.
Mais maintenant, elle habite dans la région
lyonnaise. Son spectacle s'appelle L'Ultima Boom.
L'Ultima Boom. Voilà, c'est donc le samedi 9 octobre à l'Espace Grenette à Bourgoin-Jallieu. Et le coût de l'entrée est de 10 euros.
Et gratuit pour les moins de 12 ans.
À 20h.
30. À 19h30.
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 C'est-à-dire à partir de
19h30.
Voilà. 19h30, il y aura une première rencontre, dont une intervention des...
Des Vicentini et des Frioulans de Lyon.
Voilà.
Mais il y aura sans doute, hormis les interventions un peu officielles, on va dire, après le spectacle, la soirée se prolongera et toutes les personnes... on encourage toutes les personnes aimant le spectacle, déjà, parce que c'est un beau spectacle à venir à l'Espace Grenette.
Très émouvant.
Et puis... voir d'autres... Peut-être que certaines personnes auront aussi des choses à raconter au niveau de leur propre immigration.
Voilà.
Qu'elles soient italiennes ou
autres. Voilà, ou des questions à poser. Mmh. Et donc, tout le monde se retrouvera autour d'un petit grignotage.
Qui devrait être franco-italien.
Voilà, aussi. Exactement.
Oui, et probablement après le grignotage, il y aura une dégustation d'un groupe bergalien.
Voilà. On va peut-être faire un petit clin d'œil à Venera, qui est d'origine sicilienne. Et on va passer une fanfare sicilienne dans un titre « Et vous dormitez encore ?» Et vous dormez encore. C'est une fanfare qui est intéressante. La bande ionique qui fait en général des chants sacrés, profanes. Et là, on va l'écouter dans un instrumental. Et qui, dans son dernier album, a travaillé d'ailleurs avec Arthur H., le fils de Jacques Higelin. Donc, ce morceau de la fanfare mandaïonique de Formisano e Calli. Calli, qui n'est pas le chanteur connu en France, même si lui, d'ailleurs, son grand-père venait d'Italie du Sud et il avait traversé l'Europe pour aller combattre auprès des républicains espagnols.
Mmh. Et pour terminer, pour les auditeurs de Couleur FM 97.1, à la place de la recette, tu nous donnes quelques indications sur la gastronomie des Dolomites.
Des Dolomites bellounaises, il y a beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Déjà des grenouilles et des escargots, parce qu'ils mangent beaucoup de grenouilles et d'escargots dans cette région. Il y a aussi beaucoup de viande, évidemment. Beaucoup de choses tournent autour de la viande.
Oui, mais tu nous parlais des agneaux.
Mais voilà, notamment de l'agnello dell'Alpago, de la race Pagotta, qui est une race purement des Dolomites bellounaises. Et c'est très bon, c'est quelque chose de...
Et il est de quelle couleur l'agneau?
Alors il est foncé, il est pas...
Oui, c'est un agneau noir.
Voilà. Il y a les deux, mais il y a beaucoup d'agneaux...
C'est le mouton noir.
Mouton noir, la pecora.
Sinon, évidemment, il y a toute la viande qu'on peut trouver en montagne, comme le chamois, le cerf, etc. Beaucoup de saucissons, beaucoup de fromage, beaucoup de polenta, évidemment. Alors la polenta, la vraie polenta, c'est un délice, évidemment. Malheureusement, il y a souvent des imitations de
Alors
polenta.
Alain, je pense tout d'un coup à une petite question.
Alors, une question.
Est-ce que les bergers des Dolomites s'entendent avec les loups?
Alors les loups, dans les Dolomites, il y en a... Tel c'est plus dans les Abruzzes.
Dans les Abruzzes, dans l'Italie centrale.
Et là, ils s'entendent remarquablement bien. Mais c'est régi et réglé depuis bien longtemps.
C'est ça.
Mais les loups qui sont remontés chez nous venaient des Abruzzes.
Bien sûr.
Les Dolomites, l'animal sur lequel il y a toujours des questions, c'est l'ours.
C'est l'ours, oui.
Savoir s'il est encore là ou pas.
L'ours brun.
Alors, on le disait plus vers le Trentin. Là, dans les Dolomites bellounaises, on en aurait aperçu des traces il y a quelques années. Alors, est-ce que c'était le soir après un repas bien arrosé ou est-ce que c'était... On ne sait pas trop, mais on murmure qu'il pourrait encore. Mais bon, la Slovénie n'est pas loin. Il peut y avoir aussi des passages. Pour en revenir à la nourriture, à la gastronomie des Dolomites bellounaises, il y a évidemment beaucoup de fromages. Il y a la route du fromage, de toutes sortes, du fromage fumé, du fromage frais, qui mange avec du myrtille, avec du miel, avec... Alors, on parlait de myrtille, évidemment, beaucoup de myrtille, beaucoup de fruits des bois, beaucoup de confitures savoureuses, du miel, bien sûr, beaucoup de miel, des gâteaux, alors soit des gâteaux secs, soit à base des fruits dont on vient de parler. Ils fument beaucoup, non pas la cigarette, mais
ils fument la viande,
les aliments, le fromage fumé, c'est vrai que j'avais peu vu ça, c'est bon. Hein. Enfin bon, après, c'est une question très personnelle.
Mais il y avait certainement une raison de conservation, non?
Sans doute.
Oui.
Sans doute.
Probablement.
Bien sûr, mais dans la gastronomie, il y a toujours au départ une histoire.
Tout à fait, oui. C'est pas par fantaisie.
Voilà. Des noix aussi. Il y a beaucoup de noix, de pommes. Alors le vin, il y a des vins des Dolomites. C'est pas leur, des Dolomites bellounaises. Je veux dire, c'est pas leur grande spécialité le vin. Ils ont des bières locales, par contre. Pour trouver des vins mais de très haute qualité, c'est plus le Haut-Adige où là vraiment il y a d'excellents vins, mais très renommés d'ailleurs. Voilà.
Et le groupe ABS dans un de ses disques a fait tout un travail,
l'album magnifique,
sur les fruits, la végétation locale,
et l'utilisation du bois.
Et voilà,
c'est magnifique cet album. Il est magnifique. Ce sont des gens qu'il faudrait faire venir un jour, parce que il mêle la musique, l'histoire. Il raconte l'histoire de chacun des instruments, comment il était construit, avec quel bois. C'est quand il est évidemment construit avec du bois. C'est un groupe très intéressant.
Voilà, bonne fin de mois de septembre, et puis nous nous retrouverons en octobre. Et vous n'oubliez pas, le 24 septembre, l'Assemblée Générale de l'INIS...
Qui est ouverte à tout le monde.
Qui est ouverte et on peut même y adhérer.
Bien sûr.
Et puis le 9 octobre...
Ah, le 9 octobre, il faut absolument venir.
Le spectacle de Venera Battiato, qu'il ne faut pas manquer, c'est vraiment un spectacle exceptionnel.
Et c'est une personne qui est beaucoup demandée, elle a été... elle a tourné dans toute la France, elle était récemment à Strasbourg, elle a été tout l'été, le mois de juin, sur Grenoble.
Elle est parrainée par Henri Gougaud.
En plus,
de
belles références.
Voilà, au revoir à tous.
Au revoir bonne fin de semaine.
Au revoir.
À
l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'INIS, le quatrième jeudi de chaque mois, de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.